La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme celle de Proust ou de Céline, la prose de Jean Genet a marqué la littérature française du XXe siècle. Il a été ce poète de la violence, passant sa vie à observer ces fleurs qui poussent sur le mal et la trahison. Et il a inventé une langue pour raconter tout cela. L'idée de la trahison, d'ailleurs, n'avait pas pour lui le sens que nous lui donnons communément. Trahi lui-même par la vie, pourrait-on dire, il s'est employé à esthétiser cette notion, à la rendre elle aussi poétique, au prix parfois de ce que certains ont lu comme des dérapages. Et parmi ceux qui se sont interrogés sur la violence de ces textes, on trouve Yvan Jablonka, auteur en 2004 de l'essai « Les vérités inavouables » de Jean Genet. Il viendra jeudi nous exposer son point de vue sur l'auteur de « Notre-Dame des fleurs ». La veille mercredi, Agnès Van Nouvong sera dans ce studio pour nous parler de Genet sous l'angle des études de genre. Et en seconde partie, c'est du rapport de l'écrivain avec les arts plastiques dont il sera question toujours avec elle. Enfin demain, nous parlerons du théâtre de Genet et de son rapport à la Méditerranée. Ce sera avec Emmanuel Lambert. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour raconter la vie de Jean Genet, nous sommes avec Albert Dichy, directeur littéraire de l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, où il est également responsable du Fonds Genet, dont il est l'un des grands spécialistes. On lui doit notamment Jean Genet, matricule 192-102 aux éditions Gallimard en 2010. Et il a aussi collaboré à la biographie de l'écrivain rédigée par Edmund White, toujours aux éditions Gallimard, mais en 1993, en lui fournissant une chronologie très détaillée. Edmund White, que je vous propose d'écouter tout de suite en introduction à cette émission. And I think that's worth mentioning.
Il a toujours jeté la poussière dans les yeux de, surtout des gens qui voulaient être biographes, et il détestait l'idée de la biographie. Et ça, je pense, parce que dans ses romans, il parle avec l'autorité de l'aveu. C'est les confessions. Mais en effet, il a beaucoup changé les choses dans sa vie. La plupart des écrivains qui changent les faits de leur vie, c'est pour se mettre en valeur. Mais lui, non, c'est presque le contraire. Par exemple, quand il était à Maitrey, il s'est évadé. Et c'était la chose la plus héroïque qu'il a fait jusqu'à ce point dans sa vie. Mais il donne toute cette histoire à un garçon qu'il admire, à un autre garçon. Il dit, quand je suis arrivé à Maitrey, il y avait un autre garçon qui s'appelait Rigaud, qui s'est évadé, qui est allé jusqu'à un certain... Il nomme la ville et tout. Et tous les faits sont les faits de sa propre évasion. So perfect. Jean Genet would be
proud to say we were lovers. Bonjour Albert Dichy.
Bonjour.
Alors ce que vient de nous dire en archive Edmund White, qu'est-ce que ça montre de cette personnalité un peu insaisissable qu'était Jean Genet selon vous ?
Oh, c'est très intéressant ce qu'il a dit parce qu'il pointe un des points peut-être les plus névralgiques dans son œuvre qui est... Au fond, le fait, on a beaucoup parlé de l'exaltation du mal dans l'œuvre de Jean Genet, mais cette exaltation du mal, elle est aussi chez lui toujours une façon de prendre le mal sur lui, ce qui serait la condition d'ailleurs pour qu'il puisse ensuite être partagé et devenir bien commun. Mais il faut qu'il prenne le mal sur lui et surtout que le mal social, le mal général ne soit pas fixé sur quelques personnes particulières.
Alors il prend le mal sur lui, même davantage que ce qui lui appartient. Edmund White disait un petit peu plus loin dans cette archive qu'il avait laissé entendre à beaucoup de gens qu'il avait été un assassin, ce qui est totalement faux.
Je crois que c'est un peu difficile de le savoir aujourd'hui, mais je crois que oui. Je veux dire, on n'a trouvé aucune trace vraiment de
Vous avez peut-être un doute quand même sur ce
Disons, point. Je pense qu'il a rêvé d'être un assassin, parce que l'assassin est celui qui franchit la frontière, qui se place hors de la société. Et il a toujours eu une terrible peur d'être pris dans la société. Donc l'assassin est celui qui a une sorte de garantie, qui ne peut pas être réintégré facilement.
Il n'a mais pas pu non. Franchir le pas selon vous.
Il a été un petit voleur, comme disait Cocteau. Il aurait voulu être un grand voleur, mais si on regarde bien son œuvre, au fond, son œuvre, c'est plus la défense des... Comment dire, des petits voleurs, des petits.
Il y a
de grands assassins aussi qu'il a chanté, mais il chante les grands assassins. Peut-être que s'il commet un crime, il est plus dans le chant que dans l'acte. Et d'ailleurs, il a très vite compris qu'il y avait quelque chose de pire que de commettre un acte, que de commettre le mal, c'est de chanter le mal.
Alors Edmund White, qu'on entendait en archive, c'est donc basé sur cette chronologie que vous lui avez fournie, une chronologie très précise, et puis il en a fait un récit qu'il a voulu un petit peu cinématographique. Et finalement, cette idée de l'écriture cinématographique, elle est assez appropriée, parce que l'écriture de Genet aussi, elle est un petit peu cinématographique, Albert Dichy.
Je pense qu'au fond, tout cela est lié à la question du rêve. Genet a toujours dit que durant toutes ces années qu'il a passé en prison, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était de rêver, que la prison est une formidable fabrique de rêves, que tous ceux qui sont en prison passent leur temps à cela. Et ce qu'il a réussi quand même, c'est à passer du rêve à l'écriture, ce qui est vraiment le grand passage. Mais en passant à l'écriture, il n'a pas transformé le rêve. Il a essayé de conserver. Et donc, il a créé une œuvre qui est effectivement, qui a quelque chose en commun avec l'écriture cinématographique, qui procède par montage, par court-circuit, par mise en relation de choses qui ne sont pas linéaire, voilà. Il a cassé quelque chose de la linéarité du roman traditionnel ou de l'écriture traditionnelle.
Finalement, et toujours pour citer Edmund White, il a eu une vie de moine, parce que les moines passent leur vie en cellule. Genet a été aussi qualifié de saint par Sartre. Ça vous semble juste ces métaphores religieuses pour parler de Genet?
Genet évoque cette question lui-même avant même Sartre, puisque Sartre s'en sert pour son livre, mais dans le Journal du voleur, il y a toute une réflexion sur le saint qui est hors de la société et donc qui n'est pas dans l'Église. Le saint, il y a un grand clivage entre le religieux, l'homme d'Église et le saint. Le saint est hors de l'Église et dans ce sens, il est beaucoup plus proche de grandes figures comme les criminels, les meurtriers, les gens en marge, voilà.
Oui. À tel point que Lydie Dattas, qui a vécu un moment avec Jean Genet, disait qu'il vivait toujours un petit peu comme dans une cellule, puisque en 1957, il avait acheté un appartement, il y avait deux pièces, et il avait cette phrase qui était de dire « Quand je me trouve dans une pièce, j'ai l'impression que l'autre se sent seul et il faut que je me précipite à son secours. » C'est tout de même assez joli et en même temps symptomatique.
C'est la question de l'abandon qui est centrale chez Genet. C'est-à-dire, la chambre seule est abandonnée et donc elle se retrouve comme lui. Donc il doit tout de suite y aller.
Pour la sauver.
Pour la sauver. Il y a quelque chose dans le mouvement de son œuvre, il y a quelque chose qui est salvateur.
Je suis né à Paris le 19 décembre 1910, pupille de l'assistance publique. Il me fut impossible de connaître autre chose de mon état civil. Quand j'eus 21 ans, j'obtins un acte de naissance. Ma mère s'appelait Gabrielle Genet. Mon père reste inconnu. J'étais venu au monde au 22 de la rue d'Assas. Je saurai donc quelques renseignements sur mon origine, me dis-je, et je me rendis rue d'Assas. Le 22 était occupé par la maternité. On refusa de me renseigner. Je fus élevé dans le Morvan par des paysans. Quand je rencontre dans la lande, et singulièrement au crépuscule, au retour de ma visite des ruines de Tiffauges où vécut Gilles de Rais, des fleurs de Genet, j'éprouve à leur égard une sympathie profonde. Je les considère gravement, avec tendresse. Mon trouble semble commandé par toute la nature. Je suis seul au monde et je ne suis pas sûr de n'être pas le roi, peut-être la fée de ces fleurs.
La compagnie des auteurs sur France Culture et ce célèbre extrait du journal du voleur lu par l'auteur lui-même, Albert Dichy. Alors, Genet avait 7 mois seulement quand sa mère l'a confié, c'était le 28 juillet 1911, au bureau d'abandon de l'hospice des enfants assistés qui se trouvait à l'époque rue d'Enfer Rochereau. Sa mère, elle s'appelait Camille Genet, et elle-même a disparu juste après avoir abandonné son enfant. Ils ne se sont plus jamais revus, et elle est morte 8 années plus tard de la grippe espagnole. C'est évidemment une part de la biographie de Genet qui est extrêmement connue aussi, mais tout remonte évidemment à ce traumatisme premier.
Oui, il y a cette figure qui est un peu comme une case vide dans l'œuvre de Genet et dans la biographie d'ailleurs, puisque nous n'avons pas une seule photo, par exemple, une seule reproduction, on ne sait pas à quoi elle ressemblait.
Il y a des lettres que vous avez retrouvées après la mort de Genet, et ça c'est assez déchirant parce qu'il n'aura jamais pu lire les lettres envoyées par sa mère à l'assistante publique dans lesquelles elle parle de ses petits garçons, car il y en avait en réalité deux, et ça Genet ne le savait pas non plus.
Non, au fond, c'est qu'il y a de terrible aujourd'hui quand on travaille, par exemple, comme je l'ai fait sur l'œuvre de Genet, sur sa vie, c'est que on en apprend beaucoup plus que ce que lui-même savait sur des choses, des éléments aussi cruciaux. Enfin, le rapport à la mère, on sait aujourd'hui que sa mère, effectivement, n'a jamais voulu vraiment rompre le lien, qu'elle n'a pas pu, qu'elle ne pouvait pas payer la nourrice à qui elle l'avait confié, et donc elle ne pouvait pas reprendre son fils, mais elle a continué à demander de ses nouvelles à l'assistance publique jusqu'à ce qu'elle meure, effectivement, à l'âge de 28 ans. C'est une histoire assez déchirante au départ de la vie de Genet. Et cette mère, au fond, dont il dit dans le journal du voleur, justement, qu'elle était à la fois la mère la plus chérie, puisqu'il n'a pas arrêté de rêver à elle jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs. Et en même temps, la plus haïe, parce qu'elle l'avait abandonnée. Donc on a ces éléments.
Dans les lettres, d'ailleurs, elle dit « J'espère que mon fils ne m'en voudra pas de les avoir laissés. » Alors Jean Genet, il a grandi, du coup, dans une famille d'accueil. Il a été placé à Aligny, en Morvan, dans le département de la Nièvre, chez Charles et Eugénie Régnier, menuisier et tenant un bureau de tabac aussi, qui se sont donc engagés à l'élever jusqu'à l'âge de 13 ans. Et à l'école du village, il a son premier succès littéraire. Il paraît que c'était une petite rédaction que son instituteur avait lue à haute voix. Et l'ensemble des camarades de sa classe s'étaient moqués, du coup, de cette rédaction. Là encore, on a une projection dans le monde pour un garçon sensible qui est difficile.
Alors cette histoire est assez intéressante, d'abord parce que la rédaction a un thème. C'est le maître avait demandé aux élèves de décrire leur maison. Et au fond, Genet avait écrit ce texte qu'on ne retrouvera jamais, même en archive, de cette rédaction sur sa maison. Et les autres enfants se sont moqués de lui parce qu'en fait, il était un enfant de l'assistance publique et qui n'avait pas de maison. Et ce thème de la maison revient dans toute la vie de Genet, puisque, d'une certaine façon, on pourrait presque définir Genet comme l'homme qui n'a jamais voulu avoir de maison. Sauf peut-être la maison de correction ou la maison d'arrêt. Et peut-être aussi la maison d'édition. Mais sinon, il n'a jamais voulu, ou à très rares, à de très rares moments dans sa vie, habité quelque part. Et au bout de sa vie, au fond, ce qu'il, la seule maison qu'il reconnaît comme la sienne, c'est une chambre où il est reçu par une vieille palestinienne et il passe une nuit dans cette chambre. Et les derniers mots qu'il écrit dans Un captif amoureux, c'est l'interrogation sur le fait que cette nuit, dans une maison 14 ans plus tôt, est-ce qu'elle avait été rêvée ou est-ce qu'elle avait été réelle? Mmh. Et donc, cette question de la maison hante toute l'œuvre de Genet.
Alors la maison, la première maison, il faut la quitter. Il le fait le 17 octobre 1924 en quittant son village et il va entrer en apprentissage dans une école, l'école d'Alembert. Et là, Edmund White dit que le jeune Genet était protégé, je le cite, par la solitude inviolable qui l'accompagnait partout.
Cette solitude n'est peut-être pas d'emblée donnée. C'est une solitude, je dirais, qu'il acquiert de plus en plus, puisqu'au fond, lorsque Genet est dans le village, il est bien sûr marqué par le fait d'être de l'assistance publique, donc il est à part, mais il n'est pas le seul. Il y a un tiers des élèves de sa classe étaient de l'assistance publique.
Le Morvan, c'est donc, l'endroit où on accompagne les enfants abandonnés.
Voilà. Alors après, ce qui se passe, c'est que au fond, il y a une chute dans la vie de Genet. C'est le moment où il quitte le village. Il est envoyé donc dans une. Il a de la chance d'être envoyé dans un centre d'apprentissage.
C'est parce que c'est le premier.
Il est le premier de la. Il a été au certificat d'études. Il a été premier de la commune. Donc il a de la chance au fond de ne pas devenir valet de ferme, qui était son destin. Là, on a la première bifurcation par rapport au destin qui était celui qui devait être le sien. Il est envoyé dans un centre d'apprentissage où il doit apprendre à être typographe. C'est assez amusant pour quelqu'un qui va devenir écrivain. Mais Genet reste quelques jours à peine et fugue tout de suite. Et là commence une longue série de fugues qui vont amener Genet en prison, en maison de correction d'abord, puis en prison.
Alors qu'est-ce qui se passe exactement le 8 mars 1926 qui fait qu'il est incarcéré à la prison de la Petite Roquette, qui est la grande pourvoyeuse de Maitret, la colonie pénitentiaire dont il va beaucoup parler dans son œuvre?
C'est de tout petits délits, mais comme il est sans domicile fixe, qu'il est un enfant qui fugue, qu'il est placé dans des patronages, dans des différents lieux et qu'il s'évade tout le temps, il en arrive à commettre des petits vols et il reçoit sa première condamnation par un tribunal. À cet âge-là, il est condamné à 3 mois en cellule individuelle. Alors, sur ce passage, il y a quand même une chose que je n'ai dit à un moment donné quand, plus tard, il est examiné par des psychiatres et on lui dit, mais pourquoi est-ce que vous avez fait cette première fugue de l'école d'Alembert, le centre d'apprentissage? Est-ce que vous étiez mal? Et je n'ai répondu, on ne s'en va pas toujours parce qu'on est mal, mais parce qu'on rêve d'autre chose. Et je pense qu'au fond, c'est peut-être ça aussi ce qui est arrivé à Genet et qui lui est arrivé par une chose simple qui est les livres. Mmh. Genet est un formidable lecteur de livres depuis la toute petite enfance. Et d'une certaine façon, on peut dire qu'il rêve trop fort.
Et rêver d'autre chose, c'est rêver d'être écrivain dans des conditions, donc envoyé dans cette, alors on peut pas dire une prison pour enfants, mais on va dire un centre de redressement peut-être. C'est dans ces conditions-là qu'il rêve de devenir écrivain et forcément le lieu où il se trouve impacte son imaginaire.
Oui, c'est à la colonie pénitentiaire de Maitret, donc où il est envoyé après la Petite Roquette, parce qu'il a pris à un moment donné un train sans billet, mais en réalité c'est parce qu'il a déjà un dossier qu'il suit. Donc Genet arrive à la colonie pénitentiaire de Maitret, c'est là qu'il dit que comment dire, le, je dirais pas l'idée d'être écrivain. Ce n'est pas ça. C'est le fait de pouvoir trouver un moyen qui accorde un rêve violent avec une réalité. Et ce moyen, c'est l'écriture. Il y a une chose d'ailleurs qui est très émouvante, que je n'ai dit à propos de la colonie pénitentiaire de Maitré, qui est en Touraine, donc, il dit que c'est là pour la première fois qu'il tombe sur un recueil de poèmes, et c'est un recueil de Ronsard.
Ouais.
Et je n'ai dit cette phrase qui est très étonnante, il dit, quand il a commencé à écrire, il dit, il fallait être entendu de Ronsard. C'est-à-dire que quand il prend la plume, il la prend pour être, non pas comme Ronsard ou pour imiter Ronsard, mais pour être entendu de Ronsard, comme si Ronsard était un auteur vivant. Et pour lui, c'est peut-être ça la grande force de l'œuvre de Genet, c'est que pour lui, tous les auteurs de tous les temps sont des contemporains.
Mais il lit d'ailleurs aussi ses contemporains, et puis il lit des romans populaires, et il sera toujours sensible finalement à ce mélange entre l'art le plus noble, la poésie de Ronsard, et puis, par exemple, le mélodrame qui est celui de son époque.
Genet utilise toutes les langues françaises. Celle de Ronsard, qui lui vient presque le plus naturellement. Je veux dire, les premières phrases des bonnes, les premières, il y a beaucoup d'inversions qui viennent vraiment de la langue de la Renaissance. Il a lu Maurice Sève, il a lu, Rabelais, bien sûr. Mais quand il écrit, il fait travailler toutes les langues françaises qu'il a à sa disposition, y compris la langue argotique des prisons ou de Paris.
Et il en fabrique une autre.
Il en fabrique une autre qui les mêle toutes et qui reste une chose assez étonnante, qui est à la fois, c'est pour ça que c'est tellement difficile de classer Genet, c'est pas un écrivain moderne, mais c'est en même temps quelqu'un qu'on ne peut pas non plus placer dans la tradition, donc inclassable parce que justement il déclasse les langues.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Jean Genet. Alors après Maitré, Genet se retrouve à l'armée. Il va d'abord aller en Syrie, Albert Dichy, à Damas. C'est peut-être là-bas qu'il va apprendre à devenir ce qu'il sera davantage 40 ans plus tard, c'est-à-dire l'ami des Palestiniens.
Oui, c'est très curieux. Bien sûr, il y a ce voyage au Liban-Syrie. Il arrive à Beyrouth, il est part tout de suite en Syrie, il sort de la colonie pénitentiaire de Maitré, et là, il découvre cette culture d'Orient, accueillante, chaleureuse, les garçons aussi, bien sûr.
Sur un mode qui est différent des garçons qu'il a pu connaître à Maitré, qui est un mode beaucoup plus doux, et il découvre une façon d'aimer qui n'est pas la même, qui est tout de même plus facile d'une certaine manière.
Il vient de ce qu'il décrit comme un monde féodal. Les enfants de Maitré, la prison, c'était un univers féodal, régi par la force, le rapport de vassal à dominer. Voilà. Et lui se classe d'ailleurs dans la... il fait toute une catégorie, comme Proust le ferait pour l'aristocratie, il fait toute une catégorie des enfants de Maitré, et il se classe parmi les cloches, qui sont la dernière catégorie. Donc là, il découvre une autre forme de société pour la première fois, et il tombe amoureux de ce... Il dit qu'il est tombé amoureux du monde arabe, là. Juste, je voudrais revenir en arrière parce qu'il y a une chose qui est très troublante dans la vie de Genet, c'est que lorsqu'il vient de quitter son village et qu'il est placé donc au centre d'Alembert, il y a un rapport qui est fait après sa fugue. Et dans le rapport, le directeur écrit ce qu'il a recueilli de la part des autres élèves, des autres enfants du centre. Et Genet part en disant qu'il va tourner dans les cinémas en Égypte et en Amérique. Mmh. Et on a Il a 13 ans, il n'a jamais quitté son visage, son village, il n'a jamais rien, il n'a même pas connu Paris encore, et déjà, il y a l'Égypte et l'Amérique, c'est-à-dire, au fond, le monde arabe auprès duquel il va, qu'il va accompagner dans la dernière partie de sa vie, et le monde et l'Amérique avec les Black Panthers, qui sera aussi l'autre groupe qu'il va accompagner.
Il a bouclé, donc, bouclé d'une certaine manière.
On a cette chose étonnante qu'à 13 ans, il a déjà ces deux rêves, et peut-être aussi, qui viennent aussi probablement du cinéma, parce qu'il y avait des films qui étaient projetés, et sûrement que le rapport avec l'Orient, en tout cas, est quelque chose qui provient de ce... de cette ligne.
Alors le rêve, c'est toujours un peu le rêve de la liberté chez Jeunet, et ça se traduit aussi quand il est à l'armée par sa désertion. Le 25 juin 1936, il est déclaré déserteur. Il va parcourir pendant un an quelques 8500 kilomètres à travers toute l'Europe. Ça paraît assez incroyable. Et puis, au fur et à mesure que la guerre se rapproche, on ne peut pas détailler toutes les étapes, mais il y a des moments de prison. Et puis, il y a cette idée qu'il y a trois vertus, le vol, la trahison et l'homosexualité, et c'est avec cet état d'esprit que la guerre arrive. Alors, on en parlera jeudi, je pense, avec Yvan Jablonka, mais il y a cette idée quand même que Jeunet n'a jamais caché qu'il avait été très content de la victoire des Allemands. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, selon vous, d'où vient cette appréciation ?
Oui, bien sûr. Évidemment, c'est un point, comment dire, qui prête beaucoup à discussion, débat. Mais il faut bien voir une chose, c'est que Jeunet, au fond, ce n'est pas tellement la victoire de l'Allemagne qui l'enchante. C'est la défaite de l'armée française, dont il s'est senti exclu, puisque il en faisait partie, qu'il a été il a lui-même déserté, mais il s'est senti opprimé par l'armée française. Même s'il reconnaît que, au fond, cette période dans l'armée était une période qui lui a aussi apporté un peu de confiance en lui, il dit, mais au fond, c'est la France qu'il je dirais même pas qu'il est, qu'il vomit. Là encore, pour comprendre aussi mieux Jeunet, il faut vous aviez cité tout à l'heure cette rédaction qu'il faisait en classe. Lorsque Jeunet, lorsqu'il en parle, il dit tout de suite, quand les enfants se moquent de lui dans la classe, il dit: j'ai compris tout de suite que je ne faisais pas partie du village, que j'étais en dehors et que j'étais rejeté par la France. Donc il passe tout de suite de la situation du village à la situation de la France.
On va reprendre le récit du parcours de la vie de Jean Genet avec vous, Albert Dichy, dans quelques minutes, mais tout de suite je vous propose d'aller voir ce qui s'écrit du côté des revues littéraires avec aujourd'hui Marielle Massé.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Marielle Massé, directrice d'études à l'EHESS, spécialiste de littérature française et membre de la revue Critique dont vous venez nous parler aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour.
Un mot peut-être sur Jean Genet d'abord. C'est un homme en colère, tout comme Pasolini, que je crois vous aimez particulièrement. Est-ce que la colère de Genet vous intéresse autant que celle de Pasolini ?
Oui, bien sûr. Vous m'aviez invité à parler de ça, de ces écrivains... disons dont la colère est un moyen pour défendre quelque chose de la vie, une colère par amour de la vie. Il y a quelque chose chez l'un et l'autre, chez Pasolini comme chez Genet, d'inintégrable et qui, au long de ces deux existences et puis dans des proses somptueuses, enfin éloignées de toute petitesse, ça c'est très impressionnant chez Genet, qui tient ces deux forces, la rage et et le désir.
Alors vous allez nous dire si on trouve ça aussi dans le numéro de critique qui est en ce moment en kiosque. Il s'appelle « Vivre dans un monde abîmé ». Il faut dire peut-être d'abord, Marielle Massé, ce qui l'abîme, ce monde.
Ce qui abîme ce monde, ce qui contamine les sols, asphyxie les forêts, conduit des espèces entières à s'éteindre, des modes de vie entiers à s'éteindre. Ce qui aussi conduit à un saccage social, à des expulsions, à un déluge de conflits, ce sont des pratiques très précises et qui font l'objet de toutes sortes de récits d'alerte aujourd'hui, que ce soit du côté de l'anthropologie, de la philosophie, du commentaire politique. Ce sont celles du capitalisme avancé et de ce qu'il fait à la terre, au sol, au vivant, à toutes sortes de vivants et au sentiment même du commun. Donc abîmé, oui, s'il y a bien une chose qu'on peut dire, c'est que ce monde est abîmé, et plus qu'abîmé, même il est incertain comme jamais, précaire, vulnérable.
Alors dans ce monde, est-ce qu'on doit se contenter d'y survivre ou est-ce qu'on peut également y vivre pleinement ?
Alors pleinement, je ne sais pas, mais en tout cas le pari du numéro qu'on a construit avec Romain Noël, qui est à la fois un jeune poète et un spécialiste de la question des extinctions, on a fait le pari de se pencher sur toutes les entreprises de pensée qui nous disent avec insistance et en bravant en quelque sorte cette ère des précarités de tous ordres, qui nous disent que on ne doit pas se contenter d'y survivre, qu'il faut y tenter de nouvelles habitudes et que dans ces ruines prolifèrent des espaces nouveaux, bricolés, des nouvelles pratiques, des nouvelles alliances. Le point de départ de la construction de ce numéro, ça a été le succès d'un livre incroyable d'une anthropologue sino-américaine qui s'appelle Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde, sous-titré sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme. Et Anna Tsing retrace avec une grande force narrative, avec une grande ouverture aussi à toutes sortes de récits très embrouillés. Elle retrace l'aventure d'un champignon, le Matsutake, qui pousse dans les forêts asphyxiées de l'Oregon, qui est ramassé par des gens qui sont, disons, traversés par des violences et des précarités de tous ordres, anciens vétérans des guerres américaines, migrants d'Asie. Et ce champignon, qui pousse donc dans ce sol en ruine, finit comme un produit de luxe sur les étals du Japon. Et à travers l'aventure étonnante de cette forme de vie-là, de cette forme de vie végétale, elle nous invite justement à réfléchir à ce qui, dans la boue, échappe à la boue, et dans les ruines, échappe au désastre.
Un autre exemple qu'on peut trouver également dans la revue critique, alors je vois qu'il y a un article de Bruno Latour, par exemple, mais peut-être d'autres encore.
Oui, un article sur Bruno Latour, en effet, on a rassemblé toutes sortes de voix, celles de Bruno Latour, de Donna Haraway, d'Emmanuel Ecoccia, de Baptiste Morisot, de Sophie Houdard, qui est une spécialiste de la situation actuelle de Fukushima. Et chacun a essayé de faire entendre ces façons de renouer avec un sol, d'atterrir, de se rendre attentif à beaucoup plus de formes d'alliance avec des vivants de tous ordres. Et donc voilà, on a rassemblé des voix venues de toutes sortes de disciplines, non pas pour nier la catastrophe, mais pour affirmer que ce monde abîmé, c'est le nôtre, pas mieux, et il nous revient à la fois de l'habiter et de le penser.
Mais alors Marielle Massé, Critique est une revue littéraire, qu'est-ce que la littérature peut faire pour finalement réparer ce monde abîmé ?
S'il s'agit d'une part de relancer l'imagination, c'est-à-dire de supporter ces conditions d'incertitude, s'il s'agit aussi de retenter des liens, avec d'autres vivants, s'il s'agit d'affronter quelque chose comme un nouveau temps du mythe où on sait plus du tout à quel sol on a affaire, mais où il nous revient effectivement d'atterrir, alors la littérature, elle est d'un grand secours, parce que c'est elle qui multiplie les récits et qui élargit les perceptions. En fait, le mot-clé, ça serait sans doute plus que celui de réparation, ça serait sans doute celui d'élargissement. Être attentif au cri de Gaïa, hein, comme le dit Bruno Latour, entendre le non-chant des oiseaux qui tombent. Moi, je me suis intéressée à la façon dont les poètes prêtent l'oreille au silence des oiseaux. Et voilà, pour élargir et tenter, renouer, tenter des liens dans ce monde abîmé.
Voilà, et tout cela, on peut le retrouver donc dans la revue Critique, actuellement en kiosque. Merci beaucoup, Marielle Massé. À bientôt.
Merci à vous.
La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous poursuivons notre émission introductive de cette semaine consacrée à Jean Genet avec Albert Dichy, l'un des grands spécialistes de l'écrivain et responsable du fonds Genet à l'IMEC.
Presque toujours seul, mais aidé d'un idéal compagnon, je traversais d'autres frontières. Mon émotion était toujours aussi grande. Je franchis toutes sortes d'Alpes, de Slovénie en Italie, aidé par les douaniers, puis abandonné d'eux, je remontais un torrent bourbeux. Combattu par le vent, par le froid, par les ronces, par novembre, j'atteignis un sommet derrière quoi était l'Italie. Pour la gagner, j'affrontais des monstres cachés par la nuit ou révélés par elle. Je fus pris dans les barbelés d'un fort où j'entendais marcher et chuchoter des sentinelles. Le cœur battant, accroupi dans l'ombre, j'espérais qu'avant de me fusiller, elle me caresserait et m'aimerait. Ainsi la nuit, je l'espérais peuplée de gardes voluptueux. Je m'aventurais au hasard sur un chemin. Il était bon. Je le devinais à la reconnaissance de mes semelles sur son sol honnête.
Un extrait du journal du voleur de Jean Genet, lu par Richard Leduc. Quel type de plaisir ça procure pour vous, la lecture de Jean Genet ou son écoute, comme on vient de le faire à l'instant ?
Je découvre toujours de nouvelles choses, évidemment. Il y a, surtout quand c'est lu par un comédien qui y ajoute sa propre lecture, sa propre interprétation. Donc, c'est parce que Genet a une phrase qui est étonnante, qui est remplie de surprises, de bifurcations, et donc, il y a toujours quelque chose de neuf, c'est d'une très grande densité. Donc, au fond, on n'a jamais fini de lire Genet.
Alors, ce journal du voleur dont on vient d'entendre un extrait, il date de 1949. Il y avait un second tome qui était annoncé, mais qui ne verra jamais le jour. Et 1949, c'est la date qui marque la fin de sa première et principale période de créativité. Il faut en parler, justement, de ses premiers romans et raconter aussi comment ils ont été publiés pour la plupart clandestinement. Il y a seulement un éditeur qui a eu finalement le courage de publier un des livres de Genet durant cette époque où ils sont écrits et qui correspond avec la période de la Seconde Guerre mondiale, Albert Dichy.
Oui, et encore ce livre était distribué sur souscription, donc il n'était même pas en vente ouverte. Ces livres, avant d'être diffusés clandestinement, ils ont été écrits aussi clandestinement. C'est-à-dire que Genet, les deux premiers livres sont écrits en prison. Au début, les premières lignes de Notre-Dame des Fleurs, son premier livre, sont écrites sur du papier détourné, des sacs. On faisait faire des sacs aux prisonniers, et donc Genet avait pris des sacs pour commencer à écrire son texte, qui a été saisi, et il a été puni pour détournement de biens appartenant à la communauté. Ces livres sont écrits d'abord par quelqu'un qui ne pensait pas qu'il serait un jour publié. C'est-à-dire qu'il...
Ce qui lui donne une très grande liberté, d'ailleurs, il l'a expliqué.
Ce qui lui donne peut-être parfois une trop grande liberté parce que il n'a aucun garde-fou. Et lui-même dit, j'écris sans précaution. À la fois, bien entendu, avec une liberté totale sur le plan sexuel, mais sur tous les plans. Sur le plan politique, sur le plan de la pensée. Il écrit en pensant que, même s'il l'espère quand même, parce que quand on écrit, on espère quand même, malgré tout, il y a à un certain horizon, on espère toujours être lu, mais il l'écrit en pensant que ses livres sont impubliables. Et il l'écrit dans la continuité de ses rêves de prison, d'une certaine façon, pour, lui-même le dit, pour enchanter sa cellule.
Mais en même temps, Jean Genet n'est pas homme à faire des compromis, et probablement que, même s'il avait su avec certitude qu'il serait publié, il aurait voulu écrire le même texte, car c'est ce texte-là qu'il avait le besoin d'écrire.
Bien sûr, mais je pense que quand on écrit pour des lecteurs, on est déjà pris dans un cercle social. Il l'a écrit en dehors de ce cercle. Et c'est pour ça aussi que, d'une certaine façon, on peut lire dans son œuvre une sorte de montée en violence de l'œuvre. Notre-Dame des Fleurs et Miracle de la Rose, qui sont vraiment écrits en prison, sont encore teintés de douceur, de mélancolie. Mais quand on arrive déjà à Pompes Funèbres, Querelle de Brest, on est déjà dans quelque chose de beaucoup plus violent, parce qu'il pense à ce moment-là que pense pas qu'il pourra être jamais publié hors de la clandestinité.
Et puis les bonnes aussi qui datent de cette époque-là.
Alors les bonnes, c'est déjà un autre chose. C'est-à-dire que les bonnes, il a déjà une commande, pas celle de n'importe qui, de Louis Jouvet, qu'il a rencontré à travers Cocteau. Louis Jouvet, qui est à ce moment-là le metteur en scène le plus connu de France, qui est à la recherche d'un jeune auteur pour un petit peu transformer son image auprès du public. C'est plutôt le public de la bonne bourgeoisie, c'est celui de Giraudoux. Et donc il cherche un jeune auteur et il tombe sur Genet parce que un peu par hasard. Et lorsqu'il monte les bonnes, Jouvet ne comprend rien à la pièce qu'il monte. Il la décrit comme la tragédie des confidentes, et on peut retourner la pièce dans tous les sens. La tragédie des confidentes ne lui va pas.
Mais alors là, Albert Dichy, on est passé de Genet écrivant seul dans sa prison, subissant des brimades, à Genet monté dans le tout Paris, d'une certaine façon, connaissant Cocteau, et puis connaissant Sartre. Qu'est-ce qui s'est passé, finalement, qui a transformé ce parfait inconnu en une espèce de coqueluche du Paris de cette époque-là?
Ça, c'est le passage de Genet, c'est-à-dire que Genet, il a cette chose assez rare dans la littérature, c'est-à-dire qu'il passe du dernier échelon social. Quand il commence à écrire, il est en prison, il risque la prison à perpétuité, il n'a aucun espoir de s'en sortir, il ne connaît presque personne. Et d'un coup, je dirais vraiment, avec un retournement incroyable, Cocteau raconte qu'un jour, Genet sort de prison, et le soir même, il le prend place des États-Unis chez la comtesse de Noailles, où il y a la reine d'Angleterre qui est présente, et Genet salue la reine d'Angleterre. Il sort le matin même de prison. Donc, on a le passage du dernier échelon au premier échelon, parce qu'en France, il y a cette grâce extraordinaire en France, et qu'on considère qu'un écrivain qui est un grand écrivain est l'égal des plus grands. Il franchit ce cap là, et effectivement, à partir d'un certain moment, je dirais pas qu'il se socialise, mais quand même, les bonnes sont écrites pour un public.
Mais ça va le détruire aussi, ce passage si rapide, cette ascension si rapide, et aussi le fait d'être adoubé par Jean-Paul Sartre. Alors, on sait qu'il va arrêter d'écrire pendant un moment, pendant même de nombreuses années, 6 ans, je crois. Est-ce que cette mise comme ça sous les lumières ne l'a pas en partie brûlé?
Ah, bien sûr, bien sûr. Pour lui, au fond, réussir était une catastrophe. Toute son œuvre était écrite contre cela. Et donc, il lui faut du temps. Il va le prendre 6 ans de silence. 6 ans de silence pendant lequel il essaye d'intégrer le fait qu'il est devenu un écrivain. Et en plus, il est libre, donc il a obtenu une grâce présidentielle qui, avec la remise des peines qui lui restaient à purger.
Que ses amis, justement, Jean Cocteau, ont
une formidable pétition
auprès du président.
Voilà. Et Et donc pour lui, c'est à la fois sortir, au fond, il aimait la prison, mais il voulait aussi en sortir. Mais en même temps, comment intégrer le fait qu'il est devenu un écrivain comme un autre, ça c'est très difficile pour lui. Mmh. Et la façon dont il va s'en sortir, c'est par le biais de du théâtre.
Oui. Alors, pour rester un tout petit peu sur la première période et la période que Sartre a analysée dans son livre très célèbre, Saint-Genest,
Comédien et
martyr, qui représente le tome 1 des œuvres complètes de Jean Genet. Alors ça, c'est quand même assez incroyable, c'est-à-dire que on est obligé d'attendre le tome 2 à cette époque-là pour commencer à lire les œuvres de Jean Genet dans ses propres œuvres complètes. Vous pouvez peut-être en dire un mot d'ailleurs, Albert Dichy. Et puis il y a cette thèse de Sartre sur l'homosexualité de Genet, quand il explique que finalement Genet est devenu, je cite, pédéraste parce qu'il était voleur. Albert Dichy.
Oui, alors le livre de Sartre, il est évidemment, il explose dans la vie de Genet comme une bombe. C'est-à-dire que Sartre est le plus grand philosophe en tout cas le plus connu, et d'un coup, il le place sur le parvis, et effectivement, par un livre qui est inscrit dans ses œuvres complètes, qui se vend mieux que les propres livres de Genet, et en même temps, il atteint un public évidemment beaucoup plus large à travers Sartre. Mais évidemment, la vision que Sartre donne de Genet, même si Sartre est évidemment un homme, généreux, révolté lui-même.
Avec une vie quand même absolument à l'opposé de celle qu'a vécu Genet.
Oui, bien sûr, mais ils se rejoignent aussi sur certains points. Mais malgré tout, Sartre essaye de, au fond, d'expliquer, voilà. Il essaye d'expliquer, pas simplement l'œuvre, mais l'homme, l'homosexualité, le vol,
Il l'explique bien, selon vous?
C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans l'œuvre, dans le livre de Sartre, c'est que c'est un livre qui est occupé par un souci délirant d'explication. Et global. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... Il veut tout comprendre.
Oui, donc il y a une intention du coup qui est peut-être un petit peu trop poussée.
Ah oui, et puis Genet est opaque. Genet n'est pas si simple à saisir. Et Sartre, il a un désir peut-être trop fort. Et donc du coup, parce qu'il explique aussi, il fait le portrait de Genet en train d'écrire. Il parle du livre qu'il va publier bientôt, de l'œuvre qu'il va accomplir. C'est-à-dire que lorsque Sartre publie Saint-Genet, Genet n'a commencé à écrire que depuis 8 ans, et déjà il est complètement pris sa vie entière dans le portrait que Sartre en fait.
Donc encore une fois, il s'échappe, il se tait pendant de nombreuses années et il revient comme dramaturge. Qu'est-ce qui se passe là entre 1956 et 1961, où il écrit Le Balcon, Les Nègres, Les Paravents? C'est une renaissance, mais sous une autre forme. Il a vieilli, il a mûri, et il peut se réexprimer, mais avec du coup une littérature qui va être beaucoup plus politique, et puis qui sera, encore une fois, de l'ordre du théâtre et plus du roman.
Oui, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, au lieu d'être dans un rapport frontal avec le lecteur, comme il l'était dans les romans, Genet travaille la représentation sociale. Et donc c'est plus une oblique, ou en tout cas une lutte oblique qu'il mène, c'est la représentation, et cela apparaît de façon très évidente dans Les Paravents, où on a toutes les composantes de la société française prise dans la situation de la guerre d'Algérie qui est représentée.
Et il s'agit de dévoiler la mécanique du pouvoir.
Voilà, c'est aussi ce que Le Balcon tente d'une certaine façon.
Oui. Et alors, évidemment, Les Paravents, ce sera un scandale hein, pour Edmund White, aussi important que la bataille d'Hernani ou la première du Sacre du Printemps. C'est vrai qu'on s'était battu sur les trottoirs et peut-être même dans la salle le jour de la première représentation.
Puis il y avait dans le à la tête du cortège du mouvement Occident, il y avait Jean-Marie Le Pen qui était là. Dans le cercle de ceux qui défendaient le théâtre, il y avait un certain Daniel Cohn-Bendit qui va s'illustrer à l'Odéon deux ans plus tard. Il y avait Patrick Chéroux.
Qu'est-ce qu'il va faire pendant mai 68 alors? Parce qu'on imagine que cette insurrection-là a dû lui plaire à Jean Genet, Albert Dichy.
C'est-à-dire qu'en mai 68, Genet est à ce moment-là dans un grand creux de sa vie. D'une part, il y a le funambule dont il était très amoureux, Abdallah, qui s'est suicidé quelques temps plus tôt. Et d'autre part, son œuvre littéraire est en panne. Et brusquement, la révolte de mai 68 le réveille. C'est-à-dire qu'il... Brusquement, je pense qu'il se rend compte à ce moment-là, et c'est pour la première fois, il est déjà un écrivain très connu, que sa révolte individuelle peut s'articuler, se conjuguer à des révoltes collectives.
D'ailleurs, ce sera de plus en plus comme ça au fur et à mesure de sa vie.
Ça sera comme ça jusqu'à la fin de sa vie.
Et on peut citer, par exemple, en 1982, 4 heures à Chatilla, qui est l'un des acmés, finalement, de cet engagement. Alors, il s'est engagé pour les Black Panthers, il s'engage pour les Palestiniens, et ça va devenir le cœur de sa vie. Et puis, il va devenir ce personnage-là aussi.
Oui, c'est-à-dire que, d'une certaine façon... Il va surfer sur ce qu'il appelle les mouvements, puisque pour lui c'est pas les Palestiniens ou les Black Panthers, c'est pas tellement des partis ou des groupes politiques, c'est des mouvements. Il dit des mouvements. Donc il a besoin de cela et il procède à une sorte de d'échange, c'est-à-dire que les mouvements lui donnent un désir de vivre de nouveau, et lui leur donne ce qu'il peut donner, c'est-à-dire des textes.
Enfin, tout de même, le désir de vivre, il est bien tempéré par un fond de dépression qui l'accompagne quand même toute sa vie, qui va aussi être aggravé par le fait qu'il tombe malade d'un cancer de la gorge au début des années 80, et à un entretien, qui est le dernier, je crois, donné à la BBC en 1985, au journaliste qui lui demande quels sont vos projets, Jean Genet, il répond tout simplement « j'attends la mort ». Mais il y a quand même voilà, ce fond très grave chez Jean Genet, durant toute sa vie.
Personnellement, je ne crois pas trop à la question de la dépression chez Genet, parce que au fond, Genet n'est jamais aussi fort que quand il est en situation difficile. Je veux dire, toute son œuvre a consisté à renverser la situation. Il est en prison et il la renverse. Il est malade, il a un cancer à la gorge, et c'est à ce moment-là qu'il écrit le livre le plus important en volume et l'un des plus beaux livres qu'il ait écrit, comme si au fond... Un captif amoureux. Comme si au fond il ne pouvait écrire que lorsqu'il était condamné. Alors d'abord par la justice, ensuite par la maladie. Et je pense que ce mouvement de renversement, on a retrouvé un livre de Genet dédicacé à Sartre, et Genet le dédicace en lui disant... de la part de Jean Genet, qui est à la fois le plus faible et le plus fort. C'est parce qu'il est le plus faible qu'il est le plus fort.
Pour vous, Albert Dichy, ces livres, ce sont d'abord des livres enchantés, des livres réjouissants malgré tout?
Oui, moi je pense qu'il y a une allégresse dans l'écriture de Genet, dans son œuvre. Il y a évidemment des points sombres, mais il y a une formidable vie qui traverse toute son œuvre.
Merci beaucoup, Albert Dichy. Et je rappelle qu'on peut lire de vous le livre Jean Genet, matricule 192-102, chronique des années 1910-1944, paru en 2010 chez Gallimard. Vous avez également participé, entre autres, à l'édition des œuvres de l'écrivain dans la bibliothèque de la Pléiade. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Laurence Genepin, Laurence Millet, Didier Pinault, Garance Mazelier, Anne-Vanessa Prévost et Jean-Frédéric. Demain, suite de notre thématique, il sera question de l'œuvre théâtrale de Genet et de son rapport avec la Méditerranée. C'est Emmanuelle Lambert qui nous en parlera. Elle a notamment assuré le commissariat de l'exposition L'Échappée Belle au Mucem à Marseille en 2016. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie avec Jacques Bonafé.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Fort des chiffres et des sondages qui confirment une embellie constante sur la station France Culture Plus. Moi aussi, je me célèbre moi-même par la grâce de Walt Whitman, traduit par les soins de Jacques Darras. Je me célèbre moi-même, me chante moi-même, dit Walt Whitman dans Feuilles d'herbe. Toi, tu assumeras tout ce que j'assumerai, car les atomes qui sont les miens ne t'appartiennent pas moins. Je flâne, j'invite mon âme à la flânerie, flânant m'incline sur une tige d'herbe d'été que j'observe à loisir. Plus loin dans le poème, fanfare puissante en tête, j'arrive, me voici, avec cornets et tambours, je ne joue pas de marche pour les élus seuls, je joue pour les victimes, les vaincus. Qui vous a dit que la victoire était bonne? Moi, je prétends que l'échec n'est pas moins bon, que les batailles se perdent comme elles se gagnent du même cœur. Walt Whitman. Un vieil homme barbu, nous dit Stéphane Bouquet. Oui, parce qu'en fait, c'est avec Stéphane Bouquet que nous passons la semaine. Dans Un peuple, il s'imagine circuler dans les allées d'un cimetière où se trouveraient Whitman, Baudelaire, Keats, Emily Dickinson. Walt Whitman, un vieil homme barbu, assis devant le fleuve, fatigué, mais le regardant, regardant défiler devant lui tout, absolument tout, ce que charrie le fleuve. Face rubiconde, sourire jovial, on dirait qu'il a créé le monde et qu'il l'accepte. Qu'il accepte toutes les brindilles de sa création et s'en réjouit, et que nous, si on veut, on soit là aussi et s'émerveille aussi des choses qui passent du grand défilé interminable. Ainsi, le monde est ce passage. Aucun instinct de propriétaire, mais il distribue les choses aussitôt que créées. Il les disperse. Les « je me célèbre moi-même, me chante moi-même ». Toi, tu assumeras tout ce que j'assumerai, car les atomes qui sont les miens ne t'appartiennent pas moins. Attention, attention, Jacques, il faut pas s'emballer. Stéphane Bouquet, un monde existe. Jean Vallon, il y a un peuple. Ou au moins, il y a l'espoir d'un peuple, d'une affluence faite de gens et de passés, et de mémoires contenues dans des livres, et des fois dans des corps vivants. Et on monterait dedans, on serait compris dans le mouvement général. Et c'est le monde. Stéphane Bouquet, Le mot frère, aux éditions Champ Vallon, Foule, c'est un extrait, en trois numéros. 1. Métro, train, où vous m'entourez. De visage la plus serrée densité de beauté, selon moi. Hier, j'ai ta tête à portée de main, mais résiste et ne caresse pas votre, volontiers j'imagine, votre première fois que tu touches un sein. 2. Métro, train, où je vous vois. Deux antithèses du métro, chacun a un bout de l'envie dans le mouvement d'un seul regard. Il n'y a plus la distance entre là-bas, ni la division des classes. Je suis le catalogue de tout, même les wagons à choix multiples, si vous voulez. 3. Je quitte sous la couette l'enveloppe d'asphyxie chaude dont j'avais fait refuge, je vais démourir, revenir à la ferveur des rues, leur éventail d'offres constantes. Voilà qui nous lance pour la semaine avec Stéphane Bouquet.
Merci Jacques Bonafé pour ces poèmes donc de Stéphane Bouquet.